la première.
22h, 23h.
Oui.
Par oui dire.
Oui, oui.
Pascal Tison.
A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi porto d'armi. Comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par où dire?
Qui est-ce qu'on devient quand on s'en sort?
C'est à 4 heures du matin que ce livre commence. Nous sommes le 8 septembre 2020. J'assiste depuis une semaine au procès des attentats de janvier 2015. Hier, l'audience a été terrible. Le commissaire de la section antiterroriste de la brigade criminelle, Christian Déo, a projeté sur un grand écran des images de la tuerie de Charlie Hebdo. Le président de la cour d'assises, Régis de Jorna, nous avait prévenu que de telles scènes étaient susceptibles de heurter notre sensibilité. Ceux qui ne souhaitaient pas les voir pouvaient sortir de la salle. Des parties civiles se sont levées. D'autres qui étaient restés pour voir sont sortis précipitamment au bout de quelques secondes. Le silence était insupportable. J'ai eu l'impression qu'on tombait dedans, et qu'une faille de silence se déchirait en chacun de nous. Il y a d'abord eu des photographies des corps. Ils étaient allongés sur le ventre, le visage contre le sol, et j'avais beau connaître le nom de ceux qui ont été tués ce jour-là et qui étaient couchés devant nous, je n'ai reconnu personne. Je crois que je ne voulais surtout pas reconnaître qui que ce soit. Ni Franck Brinzolaro, ni Cabu, ni Elsa Kayat, ni Charb, ni Honoré, ni Bernard Maris, ni Mustapha Ourad, ni Michel Renaud, ni Tignou, ni Volinsky. D'ailleurs, ce n'étaient pas eux. Des chevalets de couleur jaune, frappés chacun d'un numéro, étaient posés à côté des corps. Et c'est justement par leur numéro que le commissaire Déo les a nommés, au moment de préciser le nombre et la nature des impacts que chacun avait reçus. Ce n'étaient pas les dessinateurs de Charlie Hebdo, ni les chroniqueurs, ni l'officier de sécurité, ni le correcteur, ni même l'ami en visite, mais ce tout autre en nous, lourd et impersonnel, qui un jour prend la place de notre corps et se retrouve sur une photographie de scène de crime. Puis les images se sont mises à bouger, elles étaient en noir et blanc. Le silence était plus dur encore que celui des photographies. Un silence si dur qu'il nous perçait le ventre. Des formes noires ont surgi, précédées d'une silhouette frêle qui est sortie du champ, et j'ai réalisé que c'était Coco et les frères Kouachi. Sur l'écran, la masse des cagoules occupait tout l'espace, comme de l'encre noire qui gicle sur une page, et absorbe tout dans sa flaque. Seules les armes sortaient du noir, les canons brillaient en bougeant dans l'obscurité. Il y avait quelqu'un en bas, à droite de l'écran, attablé à un bureau, une autre silhouette frêle, et c'était Simon Fieschi. Je le savais bien sûr, mais je ne savais plus rien. Je ne l'ai compris que lorsque son corps est tombé. Alors les cagoules noires se sont agitées, et de la fumée envahissait ce rectangle terrible où toute l'horreur se compressait. L'une des deux cagoules a disparu, et l'autre s'est immobilisée en gros plan, juste en face de la caméra, dont on comprenait maintenant qu'elle enregistrait ce qui se passait dans l'entrée des locaux de Charlie Hebdo. ce gros corps entièrement bardé de noir, cagoule noire, gilet noir, jambes noires, se balançait avec nervosité. Il attendait l'autre qui avait disparu du champ. Y avait-il du son ? Je crois que oui. Je crois qu'on entendait le bruit des balles, mais peut-être que non. C'est allé si vite, je ne sais plus. Il me semble qu'à la fin, celui qui avait disparu est repassé dans le champ et a dit « On les a tous tués ». D'un coup, les images ont décroché et nous avons vu ce qu'une autre caméra filmait. Un couloir vitré, sombre, presque noir. Et dans ces ténèbres, un corps qui avance très vite. Il rampe comme un animal. Et derrière ce corps, l'une des cagoules noires, debout, avec l'arme qui brille au milieu du noir et blanc. Puis le corps à genoux, qui relève son visage vers la cagoule. C'est Sigolène. Je n'en reviens pas. Sigolène Vinzon. C'est le moment où elle et Shérif Kouachi se font face. Il lui parle, ou plutôt il lui hurle dessus. On voit un peu ses yeux, ou alors je crois les voir. On voit surtout sa bouche qui s'ouvre et se ferme. Sigolène semble toute petite, agenouillée devant le monstre. Ses cheveux supplient, tout son corps supplie. On n'entend rien, on sait tous ici dans la salle que c'est à cet instant, avec l'arme braquée sur elle, qu'il lui dit qu'il ne tue pas les femmes et qu'elle doit lire le Coran. On le sait. Parce que Sigolène l'a raconté, elle, une écrivaine, qui ne vit que pour lire, et à qui un tueur laisse la vie afin qu'elle lise ce livre, le Coran. Et le noir et blanc envahit l'écran. Il n'y a plus de corps. Puis de nouveau celui de Sigolène Vinzon, debout, au fond d'une pièce, un bureau sans doute. Elle tente d'ouvrir la fenêtre, elle est terrorisée. Je n'ai jamais vu un visage comme celui-ci, la bouche et les yeux déchirés par la terreur. Elle crie et tente d'ouvrir la fenêtre. À cet instant, j'ai peur qu'elle ne se jette par la fenêtre. À cet instant, je le vois, elle ne peut plus vivre. Elle a vu au sol quelque chose, elle veut disparaître. Elle va se jeter. Je me retourne vers la droite, là où je sais qu'elle s'assied chaque matin, dans la salle d'audience. Et il n'y a personne. Notre solitude, Yannick Enel. Ça vous a semblé nécessaire de faire un livre après les articles que vous aviez déjà écrits, qu'on a suivis dans Charlie Hebdo, autour du procès des attentats. Qu'est-ce qui a fait qu'il fallait revenir sur cet événement crucial pour vous et pour nous ?
Il fallait y revenir parce que j'y étais encore.
Yannick Enel.
Voilà, je n'en sortais pas, donc je n'ai pas eu l'impression d'y revenir en fait. C'est que d'une part ce livre, non seulement j'y pensais pendant le procès, mais je l'écrivais aussi en un sens, je prenais quelques notes. Je savais que faire des chroniques quotidiennes, bien que ça m'ait exalté, bien que ça ait été une forme... vraiment adapté à l'urgence, à l'horreur de la chose et aussi à la joie que j'avais d'écouter ces paroles, surtout celles des parties civiles. Malgré tout cela, je sentais que la forme de la chronique ne suffisait pas. Si tant est qu'on puisse épuiser un jour un sujet comme ça, lié à la justice, à la vérité, mais quand même je me disais... il faut quelque chose de plus en fait, il faut continuer... Et voilà, ma vie, ce sont des livres, donc je me suis dit, je vais destiner cette matière que j'essayais de retenir tous les matins entre mes doigts, de 4h du matin à 7h, avant d'aller aux audiences. Je vais offrir cette matière à cette forme peut-être plus noble, je ne sais pas, qu'est un livre. Pendant même le procès, il se trouve qu'au mois de novembre, comme le Covid est intervenu dans la salle d'audience et que l'un des accusés, Ali Riza Polat, le plus méchant, je le dis avec un peu d'ironie, mais pas seulement, enfin vraiment le plus dur des accusés, il se trouve que comme il a été infecté par le Covid pendant un mois, on n'est plus retourné à l'audience et on ne le savait pas, donc en un sens tous les 2-3 jours on pensait que ça reprenait et donc je me suis pas arrêté. Et donc j'accumulais les notes, je voulais que ça continue, enfin, je voulais que justice soit faite. Et justice peut être faite aussi en silence dans l'écriture. Ma hantise, c'était que ça s'arrête. Parce que je trouvais que même si le verdict a été juste, déclarant qu'ils étaient tous coupables à des titres divers. Même si ce verdict ne peut pas être discuté ni contesté, j'ai toujours pensé qu'il y avait un au-delà du verdict. Et que, de même qu'il y a un au-delà du châtiment, de la punition, c'est pas la question pour moi fondamentale de la justice. Je le dis peut-être trop légèrement, parce que je ne fais pas partie des victimes, en fait. Mais voilà, je pense que la justice exige une méditation endurante, que j'appelle, moi, l'écriture, la pensée, la littérature. Donc j'ai continué, bien après le procès, comme si ce procès ne s'était pas achevé, si je puis dire. Mais surtout, comme s'il fallait que je continue à le transmettre parce que un procès, voilà, il y a une date de fin et puis on passe à autre chose. Alors je sais qu'en France, mais pas seulement, en Belgique aussi et ailleurs, on n'en finira plus maintenant avec ça. C'est-à-dire qu'il y aura sans cesse des procès pour terrorisme. Et pour preuve, pendant le procès des attentats de janvier 2015, de septembre 2020 à décembre, il y a eu 3 attentats pendant le procès. Il y a quelque chose d'abyssal. Voilà, un livre a pris forme. Et ce livre, je l'ai écrit à la première personne, ce que je me permettais un peu moins pendant les chroniques, sur le site de Charlie Hebdo. Et là, j'ai voulu rendre compte de la difficulté à écrire sur le crime. Voilà. Je crois que dans mes romans, personne ne meurt. Et non pas que la mort n'existe pas dans ma vie, ça, ce serait trop beau, si je puis dire. Ou trop bête, je sais pas. Mais en tous les cas, là, c'était le crime constamment. Enfin, et ce livre qui s'appelle Notre solitude, que j'ai voulu à la première personne du pluriel, enfin, parce qu'une communauté s'est ouverte, qui n'est pas seulement celle de Charlie Hebdo, où je me suis fait des amis, enfin, évidemment, mais qui est celle de tous ceux qui avaient déjà vécu 2015. C'est une date vraiment, peut-être on pourra en reparler, mais c'est une année, je dirais, maléfique, presque démoniaque, au fond. Il y a cette communauté-là, mais il y a celle de tous ceux qui ont assisté au procès, ceux et celles qui ont assisté au procès, ceux qui n'arrêtaient pas de m'écrire, au fond, pour me soutenir. Je crois que j'ai jamais eu autant de lettres et de mails via Charlie Hebdo, vous voyez, que durant ces 3 mois, c'était extraordinaire, enfin, de ces messages spontanés, en fait, de soutien. Une lecture instantanée aussi. Pour un écrivain, c'est étrange d'être lu chaque jour. Parfois, je mets 3 ans à écrire un roman. Là, je suis en train d'en écrire un depuis 2015, vous imaginez, enfin, ça va faire 7 ans. Et là, d'un coup, d'écrire quelque chose d'intense, comme un poème, enfin, poème métaphysique, le publier dans la foulée 10 minutes après. Et 15 minutes après, vous avez déjà des réponses. C'est inouï, enfin, ça m'était jamais arrivé, et je dois dire que peut-être, pour répondre à votre question, j'ai aussi écrit ce livre pour prolonger ce dialogue avec des inconnus, pour qu'on continue à éclairer la nuit, comme ça, une piste. C'est comme si, je sais pas, j'ai cette métaphore qui me vient, j'écrivais toujours dans la nuit, de 4h à 7h, et je vous dis, tous ces messages que j'ai eus, c'était comme des lucioles. Enfin, j'ai l'impression que le chemin s'éclairait. Enfin, je voyais des briquets allumés, comme dans certains concerts. Oui. Ben, j'ai pas pu m'en passer, quoi. Alors, ce livre est un peu spécial. C'est la première fois que j'en parle, là, maintenant, avec vous. Je l'ai fini il y a très peu de temps. Enfin, il est très spécial parce que c'est un livre d'une intimité presque déroutante pour moi. J'ai été obligé de raconter des choses qui se passent chez moi, dans ma maison, dans mon bureau, dans ma chambre, dans mon salon, puisque je voulais quand même donner à entendre ce que c'est que d'essayer de confronter la littérature ou l'écriture quotidienne à l'infamie, à l'innommable. Je voulais pas, par orgueil, enfin, que l'innommable ait le dernier mot, que la mort ait le dernier mot.
Est-ce que vous diriez que vous y êtes arrivé ?
Je crois pas, non. Je crois pas.
Une petite digue.
Oui, il y a quelque chose, enfin, une petite digue, le mot est beau, hein. Quelque chose s'est construit contre. Non, mais en revanche, je pense que j'ai tenté de témoigner, là encore, de ça, enfin, de cette...
Vous accordez une grande importance, hein, à ce mot de témoin, être témoin.
Oui, parce que quand on assiste à un procès, il n'y a que ça, enfin, les vivants sont des témoins. Je dirais même que les accusés, en un sens, ils ne sont pas tous des bandits, enfin, il y a une part d'innocence en eux aussi, même s'ils ont été jugés coupables, encore une fois, eux aussi sont témoins d'une chose qu'ils ont faite ou qu'ils n'ont pas faite. Alors un témoin, comme vous savez, en grec, c'est martyr, témoin. Donc là, j'ai pu voir, surtout du côté des parties civiles et même des survivants, les survivants de l'hypercachère et les survivants de la scène de crime de Charlie Hebdo, j'ai pu entendre des personnes, je pense notamment à Coco ou Sigolène Vinzon ou Simon Fieschi, qui était le webmaster. J'ai pu entendre des personnes qui ont vraiment vécu leurs propres paroles quand ils sont venus parler à la barre. Enfin, ce lieu, la barre, ça m'a beaucoup frappé, cet espace libre de la parole. Ils ont vraiment vécu ce moment comme une métamorphose, c'est-à-dire qu'il leur est arrivé quelque chose, donc 5 ans après les crimes dont ils ont échappé, en venant en parler, on les a vus devant nous. J'ai écrit ça chaque jour, et je voulais encore écrire parce que c'est pas fini. Il y a des choses à dire, enfin, sur ce qu'on a entendu. J'ai vu que parler est toujours initiatique, et qu'un témoin ou une témoin, c'est quelqu'un qui ne cesse de vivre la parole comme tentative désespérée, justement, de poser cette digue dont vous parlez. De manière à la fois, et c'était très ambigu et très beau, enfin, de manière à la fois à établir un mur définitif entre les événements terribles qu'ils ont vécus et eux, et une manière de, en même temps, de ne pas oublier, c'est-à-dire de garder ce lien. C'était très étrange parce que aussi bien Coco que les autres, Sigolène Vinzon ou Zari Siboni, la caissière de l'hypercachère, le geste était ambivalent exactement comme dans l'acte d'écrire en littérature, c'est-à-dire qu'il s'est, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de peut-être de vaincre quelque chose, enfin de faire disparaître une forme de négatif, enfin, et en même temps il s'agit de garder un lien spirituel sans doute, enfin, avec l'être. Les témoins pour moi sont les que j'ai entendus lors de ce procès, mais de manière plus générale, enfin, les témoins sont ceux et celles qui luttent pour que la parole vive, enfin voilà, c'est l'autre nom de la littérature. Alors, en écrivant ce livre, Notre solitude, ça a été vraiment, là pour le coup, plus que pendant le procès, plus que pendant les chroniques, ma manière à moi de témoigner pour les témoins. Et donc, et ça j'y tiens beaucoup, et donc de remplir à ma manière, enfin, d'accomplir positivement la question de Paul Celan. Vous vous souvenez, dans un de ses poèmes, il demandait « N'y a-t-il donc personne pour témoigner pour les témoins ?» Et dans certaines traductions, dont celle de Blanchot, on enlève le point d'interrogation. Le niemand est vraiment traduit par personne. Personne ne témoigne pour les témoins. Moi, j'ai toujours été persuadé du contraire. Enfin, la littérature témoigne pour les témoins. La poésie témoigne pour les témoins. Les témoins témoignent pour les témoins, vous voyez.
C'est ce que vous faites aussi dans Yann Karski.
Ben, je suis content que vous le citiez, parce qu'en écrivant Notre solitude et en approfondissant de manière méditative, dans leur tressage, les thèmes de ce livre, enfin, je me suis aperçu que c'était une réponse à Yann Karski, une continuation.
Yannick Enel, Yann Karski.
Now I go back.
Est-ce que Dieu est mort à Auschwitz?
35 years.
On m'a posé un jour cette question, mais elle est sans réponse.
No.
Il n'y a jamais de réponse à l'abandon.
I don't go back.
Et il n'a jamais existé de pire abandon que celui des Juifs d'Europe.
On se souvient des hésitations de Yann Karski au début de l'entretien, son impossibilité à franchir la ligne de la mémoire, comme s'il y avait une frontière entre la vie présente et cet horrible passé vers lequel il ne parvenait pas à retourner. Non, je ne retourne pas. Non, non. Dès les premiers mots de l'entretien, il restait bloqué. Il ne voulait pas retourner, même par le langage, à l'intérieur du ghetto. Il n'avait plus de mots. Il restait sur le seuil. Là-bas, disait-il pour désigner le ghetto. Aucun récit ne m'avait été fait. Je n'avais jamais été là-bas. Ainsi, arrivé au moment d'entrer dans ce lieu où le langage pour Yann Karski s'est pétrifié, il prévient Claude Lanzmann. « Bon, alors, vous voulez que je raconte ?»
Yann Karski.
Oui, Yann Karski est mort en 2000. J'ai découvert, comme beaucoup de gens, la figure de Yann Karski en voyant le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ce qui m'a beaucoup frappé, surtout la deuxième fois où j'ai vu le film, c'était le caractère à la fois, je dirais, noble, enfin la noblesse d'esprit de cet homme, son élégance, et surtout l'étrange grâce qu'il avait, qui le singularisait par rapport aux autres personnes qui sont interrogées par Lanzmann dans le film, qui est en prise directe avec la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe, puisque la plupart étaient juifs, ou alors il y avait les bourreaux nazis qui étaient enregistrés à leur insu. Et Karski était le seul à participer à cette horrible histoire d'une manière latérale, transversale, avec déjà quelque chose qui pour moi relevait de la position de l'écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui, en tous les cas c'est ma définition à moi, qui n'est pas tout à fait dans l'événement, mais qui vit l'événement tout en étant en même temps à côté. Et c'était quelqu'un qui, et ça m'a tout de suite ébloui, qui à la fois essayait de parler d'une expérience sur laquelle il est impossible de mettre des mots, et qui en même temps était un porteur de phrases, puisque lorsqu'il est entré par deux fois au ghetto de Varsovie en 1942, les leaders juifs lui ont demandé de porter un message de leur part, en Angleterre et jusqu'au bureau ovale, la Maison Blanche, à Roosevelt. Et donc ce porteur de phrases, pour moi, là aussi, c'était, je pense, avoir été attiré, indépendamment de l'histoire stupéfiante, extraordinaire de Jan Karski, de ses aventures, si je puis dire, et de ce qu'il avait vu, puisqu'il est, en gros, le premier témoin avéré de l'extermination des Juifs d'Europe. Il y avait aussi l'idée qu'il devait porter des phrases. Jan Karski, c'était l'histoire d'un témoin, enfin, qui témoignait pour tous les Juifs encore vivants à ce moment-là du ghetto de Varsovie, puis morts. Et en tant que porteur de phrases, Jan Karski, lorsqu'il traversait l'Atlantique pour aller réciter la parole des Juifs d'Europe de l'Est, il devenait plus qu'un messager, il devenait un témoin en fait de la destruction des Juifs et de leurs paroles immémoriales. Toute proportion gardée, c'est pas une comparaison que je fais, mais 10 ans après avoir écrit Jan Karski, effectivement, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé à creuser à nouveau cette question du témoignage, mais du témoignage, j'allais dire, à un second degré, de témoigner pour les témoins. La littérature dont je sens que je suis, à laquelle je me rends disponible, c'est une littérature presque herméneutique que j'emploie pour déchiffrer quelque chose qui vient des autres. Vous voyez, et Notre solitude, c'est un livre écrit à la première personne où je raconte l'impact d'un procès comme celui-ci sur quelqu'un qui est censé en être l'un des narrateurs, puisque je devais tenir la chronique coûte que coûte pour Charlie Hebdo. Mais c'est un livre entièrement tourné vers la parole des autres. Et j'ai découvert que le témoin des témoins, c'est quelqu'un qui, même s'il parle de lui, doit rester vide. C'est quelqu'un qui doit rester vulnérable. Et ça, c'est une chose qui m'est arrivée bouleversante pendant ce procès, qui est la découverte d'une faiblesse active que j'avais en moi. Je ne vous parle pas de mon émotion pendant le procès, qui était constante, mais plutôt de cette empathie que j'ai découverte comme étant presque une force, c'est-à-dire de rester, comment dire ça ? Vous savez, l'empathie, l'excès d'empathie ne nous protège plus, enfin, on est à vif. Et précisément pendant 54 jours, enfin 53 je crois, pendant 53 jours, tenir dans une vulnérabilité ouverte, c'est un peu périlleux, je dois dire, mais c'est précisément ce qui me permettait d'écrire. Si j'avais voulu être fort, si j'avais voulu être celui qui maîtrise son sujet, si j'avais voulu être un bon chroniqueur, en fait, je me serais fermé complètement aux autres. J'aurais écrit de bons petits textes tous les jours, où j'aurais capté des ambiances, j'aurais raconté des anecdotes sympathiques ou tragiques. Mais là, en m'effondrant, si je puis dire, enfin, en étant dans un état... oui, de vulnérabilité constante, enfin, toujours au bord de craquer, je préfère le dire en riant, j'arrivais à écrire ça en fait. j'arrivais à essayer de capter les âmes, parce que recopier les paroles qu'on entendait, ça, on peut tous le faire, enfin, il suffit d'être bien organisé. Mais il s'agissait quand même d'entendre autre chose, enfin, constamment, des choses qu'on n'arrive pas à dire quand on sort d'une scène de crime, quand on s'en remet pas. Les survivants disent des choses qui nous transpercent, nous, mais je pense que seule une autre souffrance peut entendre. La mienne était, comment dire ça, oui, je ne sais pas comment le dire, je l'ai ajustée à ça. Et un jour, j'ai eu une conversation avec un rabbin, avec une rabbine en l'occurrence, qui suivait le procès, je l'ai appris à ce moment-là, qui suivait le procès très activement, qui est Delphine Orvillère, et qui m'a dit qu'elle comprenait très bien ce genre de, presque de névrose dont je viens de vous parler, à savoir se maintenir dans un état comme ça, presque de douleur, pour pouvoir en faire quelque chose. Bon, c'est une chose que je ne pratique pas d'habitude. Je préfère la joie, disons. Elle m'a dit que c'était tout à fait biblique et que l'art de deviner les autres et d'être le témoin pour les autres n'était offert qu'à ceux qui sont vulnérables. Et je me souviens d'une conversation que je raconte d'ailleurs dans ce livre. Je raconte cette longue rencontre avec Delphine Orvillère. Elle m'a cité toutes sortes de prophètes, enfin, et la manière dont l'écriture et la parole et la compréhension n'est offerte qu'à ceux qui sont dans le manque. Par exemple, Moïse, qui bégaye, donc dont la langue est lourde, enfin, qui précisément a été choisi. On lui offre de la parole prophétique parce que précisément il parle moins bien que les autres. Vous voyez, et donc j'ai senti à un moment, je compare pas, là, faudrait être fou en fait pour rien se dire tiens voilà Moïse. Mais il m'arrivait des choses très étranges pendant ce procès dont je pensais être accablé. Et chaque jour, je me disais, je vais pas y arriver, je suis de plus en plus faible, de plus en plus mal, et c'était pas ma constitution physique, enfin, c'était la masse de ce qui s'y disait, la masse de paroles m'amoindrissait à mesure, vous voyez. Et plus j'étais amoindri, mieux j'écrivais. Et c'est pas un éloge du dolorisme que je fais là, c'était vraiment juste adapté pour cette immense cérémonie spirituelle, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, moi qui suis athée, enfin qui ne sais pas très bien trop, qui suis agnostique disons, je ne sais pas comment on dit, bah, d'ailleurs j'en dis trop déjà, là. J'ai honte de ces mots trop grossiers, athée, agnostique, croyant.
En tout cas c'est pas clair, il y a quelque chose qui se loge du côté du spirituel.
Absolument, et je suis très heureux que ce soit pas clair. Voilà, Delphine Orvillère justement... Je l'ai rencontré parce que j'avais besoin d'en parler sans cesse. J'en parlais tout le temps de ce procès pendant les 3 mois à mes proches, mais aussi à des gens partout. Puis j'écrivais, j'étais obsédé par ça, je pense qu'il le fallait. Et je rencontre dans ce livre Notre solitude aussi de toutes sortes de dialogues que j'ai eus, qui permettaient d'éclairer, enfin, vous savez, comme un midrash, enfin, quelque chose qui continue à se dévoiler d'un événement de parole qui a eu lieu pendant 53, 54 jours, qui concerne quand même toute la société. Et un jour, Delphine Orvillère, j'ai su qu'elle avait, pour Yom Kippour, qu'elle avait cité une de mes chroniques. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça m'a été rapporté par quelqu'un qui était dans sa communauté et qui le jour du Yom Kippour, a entendu Delphine Orvillère dire, voilà, tout en chantant aussi certains chants juifs et en rapportant les paroles avec la Bible, elle a lu des passages d'une chronique que j'avais faite sur le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et ce qui correspondait apparemment, chose que j'ignorais, à des rituels et des cérémonies liées à Yom Kippour et au tribunal d'en haut et d'en bas. Et moi j'en parlais parce que durant ce procès, à un moment, la caissière de l'hypercachère, Zahry Siboni, l'une des deux caissières, lorsqu'elle a témoigné pendant plus de 4 heures, et d'ailleurs elle a témoigné pendant un temps, j'avais chronométré, c'était très troublant, pendant le temps qu'a duré la prise d'otage, qui a duré à peu près 4 heures, de toutes les personnes dans l'hypercachère par Amédi Coulibaly. Des morts, comme vous savez, mais la plupart des gens ont été pris en otage. Et elle a parlé de manière, je dirais, comme pour conjurer ce temps-là, cette temporalité, sans le savoir, elle a repassé tout ce temps-là devant nous. Et donc ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui outrepassait la simple prise en compte judiciaire. Enfin, c'est pour ça que je parle de composantes spirituelles. Ce qui s'est passé dans l'hyper-cachère, cette supérette avec un nom quand même qui nous dit que c'est pas rien, c'est de la nourriture bénie. Le jour où Hamedi Coulibaly est venu dans ce lieu et a tué 4 personnes, c'était un vendredi. Et c'est comme si cette femme, Zahri Sibony, en témoignant, retournait tout ce qui relevait de l'infamie pour le resacraliser, en fait. Voilà le sens de ce livre, en fait. Ça a été à la fois très modestement et de manière complètement extravagante, parce qu'une telle chose est sans doute impossible, d'essayer d'entendre si, au-delà du plan judiciaire, il n'y avait pas quelque chose qui se passait entre les êtres de spirituel. Et encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si on croit ou si on ne croit pas en quelque transcendance. La parole est traversée par quelque chose qui s'appelle l'esprit, en fait. Et donc, quand on parle, comme vous le savez, tous les poètes le savent, enfin, quand on parle, on est précédé. C'est-à-dire que la parole parle toute seule. De Mallarmé à Paul Celan, de Rilke à Mandelstam, tout est toujours dit depuis une dimension intérieure de la parole. Eh bien, ma stupéfaction, moi qui n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal de ma vie et qui en bon lecteur de Kafka était un peu rétif même, parce que je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils passent devant un tribunal, se sentent coupables, vous voyez. Eh bien, à ma stupéfaction, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de l'ordre du poétique. Je ne dis pas de la poésie, parce que le crime, c'est tout le contraire de la poésie, comme chacun sait. Mais qu'il s'agissait constamment, toute la journée, quand les accusés parlaient, quand les innocents parlaient, quand les policiers parlaient, quand les avocats parlaient, quand les parties civiles parlaient, quand les survivants, je ne sais pas, on peut multiplier les mots, il s'agissait sans cesse d'un combat spirituel entre l'indemne, cette part irréductible en chacun, même chez le meurtrier, Raskolnikov nous l'a toujours déjà prouvé, enfin, il y a une part irréductible même chez l'assassin, une part peut-être même pure, enfin c'est ça la folie de Dostoïevskienne, eh bien, je sentais qu'il y avait un combat spirituel à chaque instant entre, je dis pas le mal et le bien, c'est trop pompier, mais entre l'innocence et la malfaisance, voilà. Et que c'était à moi, ça c'est ma folie personnelle, d'en rendre compte, parce que le juge, il s'en fout de ça, enfin, c'est pas son problème. Ce qui se passe sur un plan métaphysique, même si j'ai eu des conversations après avec le président du jury qui lisait mes chroniques, qui m'a dit effectivement, on entend ça sans cesse. Lui, ça faisait 30 ans qu'il faisait des procès en cour d'assises. Toute cette dimension métaphysique, évidemment, elle est là, en fait. Mais le jugement, ce sont les faits. Même s'il était le premier à dire que les faits et les êtres, c'est quand même des choses qui sont mêlées. Tout ça pour vous dire que ce livre, Notre solitude, c'est un récit comme ça sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ce procès, parce qu'on a beau chroniquer ce procès, on a beau en avoir parlé à la télé, et puis il y en aura encore une fois, il y en aura plein d'autres, puis on est en plein procès du 13 novembre, du Bataclan, il y a eu des horreurs aussi en Belgique, dans des tas de pays où il y aura des procès aussi. Et là, il y en a eu un qui a eu lieu, j'y étais, du matin au soir, donc j'en témoigne. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui, comme le titre que j'ai choisi l'indique, enfin, notre solitude, relève de la définition constante et sans cesse renouvelée de l'humanité, enfin de ce que l'on désire pour nous tous.
Vous disiez que le président de la Cour lisait vos chroniques. Il y en a d'autres aussi qui les lisaient, sont les avocats de la défense. Et vous avez retrouvé certains de vos arguments le lendemain ou le surlendemain. Et donc, comment avez-vous réagi? Parce que c'est étrange quand même comme, comme position et comme sentiment, j'imagine.
C'est-à-dire que mon écriture était un peu débordante, donc ça me pendait au nez, en fait. C'est-à-dire que je publiais ça, j'écrivais tous les jours énormément de pages, c'était publié tout de suite. Alors on a repris toutes les chroniques après dans un livre, avec les dessins de Book. Mais non, c'était vraiment tous les matins une espèce de méditation, un résumé de ce qui s'y passait, ce qui s'était passé toute la journée. Et puis je pouvais pas m'empêcher de... parce que j'avais les livres dans mes poches, dans mon manteau, quand j'allais là-bas, de mettre du Kafka, de mettre Simone Veil, Dostoïevski, c'est-à-dire de penser avec la littérature et la philosophie ce qui était en train de se passer. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui faisaient des chroniques, mais peut-être que celle-ci avait quelque chose de très humaniste, et que, comme je suis obsédé par les philosophies, il m'arrivait certains jours où j'étais un peu plus en forme que d'autres, de déjà philosopher sur ce qui venait de se passer. Ce qui est un peu acrobatique, je dois dire, et parfois dangereux, parce que la philosophie exige du recul. Mais là, je le faisais tout de suite. Et donc, il y avait parfois un bénéfice, enfin, à lire ça, je suppose, pour même les accusés. Les accusés me regardaient à travers la vitre. Ils savaient, ils m'avaient identifié. J'ai pris, parce que c'était totalement subjectif. Il m'est arrivé de prendre la défense de l'un d'entre eux, parce que j'estimais, c'était sans doute excessif, mais la littérature est excessive, j'estimais que cet homme-là, c'était l'erreur judiciaire incarnée. Sauf que je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Rhys, le directeur, m'a dit après, il y avait 50 000 lecteurs, c'était inouï, j'en ai parfois beaucoup moins pour mes livres. Et donc il y a eu un impact, voilà, que je n'avais pas réalisé. Et loin de moi l'idée totalement mégalomaniaque de penser que j'ai influé sur ce procès, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a eu un moment, effectivement, vous en parlez, très vertigineux, qui est beau pour le pouvoir du langage, le pouvoir de la littérature, en fait, qui est que les avocats de la défense qui passaient en dernier, en fait, ce procès a duré 3 mois et demi. Les dernières semaines, j'ai vu certaines de mes chroniques du début, en fait. Quand je faisais les portraits, moi, minutieux, portraits psychologiques, métaphysiques, encore une fois, des accusés, j'ai vu des phrases qui revenaient comme des arguments, ils me citaient, hein, comme des arguments en faveur des accusés, c'est-à-dire pour les acquitter. J'étais dans une position un peu embarrassante parce que moi qui ne voulais pas intervenir dans la dimension judiciaire, mais plutôt dans une dimension spirituelle, comme je vous disais, j'ai bien été obligé de m'avouer que non, c'est du réel tout ça, et que je me croyais extérieur à ça, mais j'en faisais partie. Et tout le monde fait partie d'un procès en un sens, qu'on soit silencieux ou qu'on parle. Et c'était également embarrassant parce que je représentais Charlie Hebdo. Et donc je dois dire que... même si c'est l'un des journaux les plus libres au monde et qu'on peut y parler de tout ce qu'on veut, il m'est même arrivé d'y parler, d'y faire des éloges de Jésus juste pour taquiner tout le monde, comme ça, par goût de la provocation à la Charlie, mais à l'envers. On m'a jamais rien dit. Enfin, ils se sont dit, bon, il est un peu comme ça, lui. Eh bien là, j'étais embarrassé parce que, quand même, les gens que j'avais devant moi, même si je pouvais avoir de la sympathie pour certains accusés, c'était quand même des gens qui avaient trempé dans l'assassinat de mes amis, de certaines personnes que je connaissais. Et donc, prendre mes phrases...
pour les défendre.
Pour parfois les sortir du contexte, ou de leur nuancier, si je puis dire, pour abreuver une défense et éventuellement acquitter certains d'entre eux, je dois dire que effectivement j'étais très mal, en fait. Bon, il se trouve que personne n'a été acquitté, parce que ça n'a pas suffi, mais mes jolies phrases. Ils récupéraient mon discours pour dire, voyez, même à Charlie Hebdo, on dit qu'ils sont ceci, cela, et c'est pas vrai, moi je suis chroniqueur extérieur à Charlie Hebdo, c'est pas le discours de Charlie Hebdo. Après, je m'en suis expliqué avec les avocats de la défense, déjà ils font leur métier. J'ai vécu ça aussi comme une forme de reconnaissance, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un discours qui était produit constamment. Enfin, c'était un travail que je produisais, qui était une forme de commentaire. Enfin, et voilà, j'ai vu que ça alimentait le procès lui-même. C'était assez étonnant. Enfin, ça m'a réconcilié même avec l'idée que la littérature a quand même, malgré ce qu'on dit, une certaine influence, quoi.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui que vous trouviez plus innocent que les autres ?
Eh bien, il a été relâché.
Ah, oui.
Alors, il n'a pas été acquitté sur le moment, mais il se trouve que tous les gens qui étaient là, qui avaient participé de manière matérielle, enfin, à la logistique des attentats, il y en a deux ou trois, disons, mais on ne va pas entrer dans le détail des peines, il y en a deux ou trois qui étaient vraiment très, très impliqués. Bon, mais ça faisait pas l'ombre d'un doute. Après, c'était des évaluations... à préciser, disons. Mais là, c'était un homme, c'était le plus vieux, c'était un homme qui vivait en Belgique, qui était obsédé par les casinos. C'était un joueur, en fait, qui passait son temps de manière presque insomniaque, amnésique et somnambulique à jouer, à dépenser tout ce qu'il avait. Et c'est quelqu'un qui, à un moment, a porté, si je me souviens bien, a porté un sac. On l'a payé misérablement, on lui a donné quelques centaines d'euros pour qu'il porte un sac de la Belgique à la banlieue parisienne. Et dans ce sac, il y avait des armes. Certains ont dit que c'était les Kalachnikovs qui avaient servi à Mehdi Coulibaly, d'autres ont dit que non, finalement c'était sans doute des armes rouillées. Mais ce type-là, il n'a même pas ouvert ce qu'il y avait dedans, enfin... Alors, c'était pas seulement mon intime conviction que cet homme était innocent, c'était que c'était un pauvre bougre, vous voyez. C'était pas un innocent. C'est un type qui trempait dans des trafics depuis 40 ans, mais par rapport à des accusations de terrorisme, on était très loin de ça. Quand on assiste à un procès, on voit les accusés pendant tous les jours, quoi. 8 heures par jour, on les voit là derrière.
Oui, vous les décrivez là dans leur vitre, et puis il y en a un qui se rebelle, justement, qui trouve ça insupportable.
C'est-à-dire que c'est humain, quoi. Les moments de révolte, enfin, j'étais même étonné que la plupart ne se révoltent pas plus. Enfin, je pense qu'ils étaient tellement briefés par leurs avocats, et puis sous-tranquillisants, parce que comme vous savez, en prison, presque tout le monde est sous-tranquillisant. Ils dormaient, quoi. Donc c'est très étrange, un peu comme dans L'étranger de Camus. Certains ont assisté à leur procès en dormant. Ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment se défendre. Bon, il y a les accusés. Et je dois dire que là, pour le dire un peu à la Michel Foucault, enfin, ce panoptique, ce principe de mettre les accusés derrière une vitre m'a un peu fait honte. Mais je peux comprendre, enfin, la dangerosité... Et puis les précautions, la protection même pour les accusés. Enfin, mais bon, c'est très étrange d'avoir des animaux en cage devant soi. Enfin, là, on se pose des questions justement philosophiques sur suis-je le prochain de cet homme ? Enfin, est-il égal à moi ? Vous voyez, ça cogitait sans cesse dans ma tête, l'idée de ce qui nous sépare, en fait, d'une autre personne. Alors, il y a les accusés, mais il y a surtout les victimes. Moi, ce qui m'a passionné le plus durant ce procès, et qui a fait de ce procès une immense expérience existentielle, c'est de côtoyer, d'entendre des êtres qui revenaient de la mort, si je puis dire, pour nous en parler, et qui étaient consacrés par leur survivance. Depuis l'hiver dernier, pour les avoir rencontrés, et j'ai la chance d'être devenu ami avec Coco, Ségolène Vinzon et Simon Fieschi, donc trois survivants de cette hécatombe de Charlie Hebdo, qui ont été blessés à divers titres. Enfin, j'ai compris à leur contact que revenir d'une scène de crime, s'en remettre, c'était être doté, qu'on le veuille ou non, de quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire d'être doté d'une compétence qu'ils ne peuvent pas employer. Enfin, ils ont un savoir, en fait. C'est assez fou, mais comme dans les films de Tarkovsky, je sais pas. C'est pas qu'ils soient revenus de la mort, mais c'est tout comme le fait d'avoir été victime, et ce sont les premiers à dédaigner le mot victime, à vouloir sortir de la victimologie. Ce sont les premiers à dire que, au fond, les victimes ne devraient avoir aucun droit. Vous imaginez, enfin, c'était abyssal le fait qu'ils disent ça, enfin. Alors que beaucoup de gens venaient à ce procès pour dire « Ben moi, en fait, je voudrais dire que je voudrais qu'on m'octroie le droit d'être reconnu victime parce que je suis dans la chaîne des malheurs. Je suis quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui était là-bas et donc moi aussi je me sens victime. » Il y a eu des hurluberlus, enfin, qui sont venus demander à en être. La plupart des victimes directes des attentats de janvier 2015 avait une humilité qui m'a paru aller avec ce que j'appelle, peut-être c'est pas le mot, ce savoir, enfin, ils et elles ont traversé quelque chose qui leur a donné, mais quoi, je sais pas. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre qui, dans sa dernière partie, essaye de rendre compte de cette énigme de qui est-ce qu'on devient quand on s'en sort. J'ai beaucoup pensé au sacrifice d'Isaac, enfin, dans la Bible, enfin, ce qu'on appelle la ligature d'Isaac. C'est-à-dire que le fait que, comme vous savez, Abraham amène sur le mont Moria son fils, enfin, on sait tous ça, et au dernier moment, alors même que Isaac pense qu'on va sacrifier l'agneau, c'est lui qui devient l'objet du sacrifice, puis le couteau une fois sous sa gorge, la main de l'ange écarte le bras d'Abraham, et il survit à ce crime qui n'a pas eu lieu. Mais le couteau sur sa gorge, qui a été au dernier moment ôté, donc il ne l'a pas égorgé, le consacre, c'est-à-dire qu'il entre dans le sacré. Isaac devient sacré puisqu'il a été destiné à la mort et qu'il n'en est pas mort. De la même manière, et on peut le dire en termes profanes, mes amis de Charlie Hebdo, Zari Siboni, la caissière de l'hypercacher, et bien d'autres qui sont venus, et ceux et celles qui ne sont pas venus, qui n'ont pas voulu parler, sont des individus qui sont devenus autres, malheureusement, mais parce que le couteau qui les a approchés, parfois même les a transpercés, ne les a pas eus jusqu'au bout. Et donc, survivre au couteau, qu'est-ce que c'est ? C'est ça l'objet de ma quête, en fait, parce que je peux le dire en écrivain, c'est la seule compétence, entre guillemets, c'est une compétence sans pouvoir, mais c'est la seule compétence que j'ai. Je peux le dire en écrivain, quand je les ai entendus, tous, ils ne parlaient pas comme on parle quand on est un être, quand on est un individu, comme je disais. Ce n'étaient pas des individus. Ils avaient beau dire on n'est pas des victimes, ils étaient, possédaient quelque chose que très heureusement nous n'avons pas. Nous, enfin moi en tous les cas, qui n'ai pas revenu d'un massacre. Et cette chose très mystérieuse, très folle, très impérieuse, très pudique, très enveloppée, eh bien je l'assimile à la matière même de la littérature. Je ne sais pas si ce raccourci est bizarre. En vous le disant là maintenant, parce que, comme je vous disais, j'en ai jamais parlé de ce livre, mais je me rends compte qu'il y a un livre de Derrida là-dessus, que je n'ai pas réouvert, mais j'aurais dû peut-être, où il parle de ça, en fait, de la littérature, du fils, du père, d'Abraham, Isaac, de témoigner. Et quand je dis que ce qu'il ou elle ont dit était comme pour moi ce qu'est la littérature, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ont fait de la littérature. Ça ne veut pas dire que ce que j'écris, moi, devient sacré. Mais on est dans des correspondances qui m'ont complètement troublé, en fait. Parce que je pense que la littérature, si elle a un sens, c'est quand elle se loge à ces hauteurs-là, en fait. À ces hauteurs qui sont parfois presque silencieuses, au fond, qui sont des paroles suffoquées, comme dirait Sarah Kaufman, enfin, où on est au bord, où on est à l'épreuve du silence sans cesse. Coco, aussi bien que Zari Siboni, sont des femmes qui ne se payent pas de mots, en fait. C'est pas qu'elles parlent mal, elles parlent magnifiquement bien. Elles ont peur de dire des choses qui seraient... Elles ont ce scrupule qu'ont tous ceux qui essayent d'employer la parole au mieux, enfin... Parce qu'elles savent, voilà justement ça, que c'est pas exactement ça quand on dit quelque chose. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Il faudrait trouver un autre mot encore. Et donc ce travail comme ça, de la parole, harassant à la barre, j'ai vu à quel point ça allait jusqu'au bord de l'évanouissement. Enfin, et c'était pas seulement de revivre un moment traumatique, c'était le fait que témoigner, c'est un travail immense. C'est comme un moment de psychanalyse, enfin, où les mots coagulent entre eux pour essayer de trouver leur vibration mélodique, parce que là, peut-être, ça sera vrai, là. Et la vérité, peut-être, ne précède pas. Il faut vraiment se mettre à parler pour que la vérité advienne. Donc voilà, c'est les expériences du néant. Bah, le livre raconte le procès, mais il examine surtout, parce que j'ai pris énormément de notes, donc moi, j'avais toutes ces notes. Je sais ce qu'elles ont dit, j'ai tout noté. On n'a pas le droit d'enregistrer pendant les procès, comme vous savez. Mais moi, j'ai tout noté comme un fou, en fait.
Parmi les victimes, je ne sais pas s'il n'a pas voulu témoigner, son nom apparaît quand même, bien sûr, dans votre livre, c'est Philippe Lançon.
Oui. Au procès, il n'est pas venu, non ? Alors, je ne peux pas me substituer à lui, je le connais assez peu. On s'est vu, hein, deux, trois fois. Il se trouve qu'il a témoigné justement par un livre, par la littérature, qui a été publié avant, enfin, un livre qui s'appelle Le Lambeau, un livre extraordinaire. Témoignage d'autant plus crucial qu'il ne raconte que, je dirais, qu'en une vingtaine de pages, ce qui a eu lieu lors de la scène de crime, mais qu'il raconte en plusieurs centaines de pages ce qui a eu lieu par la suite pour lui, c'est-à-dire la manière dont la scène de crime n'en finit pas au moment où les tueurs s'en vont, quoi. Je pense que quand on en revient, ce que je disais tout à l'heure concernant ceux qui ont témoigné, c'est que ça ne s'arrête pas, en fait. Le aller à la barre ou ne pas y aller, bon, ce sont des choix, là, pour le coup, liés à ce qu'on arrive à supporter ou pas. Je pense que Philippe Lançon ne voulait pas, je ne saurais pas commenter. Je pense que, le connaissant un petit peu, je sais que sa pudeur est extrême. Et aussi que sans doute, il y a un moment où on n'en peut plus, en fait, de verbaliser des choses. Pour ceux qui sont venus, ceux et celles que je connais un peu, je leur ai demandé, enfin, puisque j'écris sur eux, je leur ai montré aussi, je sais pas, il y a aussi quand même quelque chose de l'ordre de l'éthique dans tout ça. Et ils m'ont dit, ils et elles m'ont dit tous à peu près la même chose, à savoir que ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils attendaient, qu'ils voulaient parler. Et la plupart ne s'imaginaient pas qu'ils diraient ce qu'ils avaient prévu de dire. Ils ont dit ce qu'ils avaient prévu, certains même avaient appris par cœur des choses, vous imaginez, en 6 ans. Mais c'est parti ailleurs, en fait. Et c'est là que ça a été beau pour tout le monde. Je parlais de métamorphose, d'initiation. Simon Fieschi m'a même parlé d'état de conscience modifié à la barre. Et c'est vrai que la barre, qui est le seul lieu vide, le lieu transparent, tout blanc au milieu de ce tribunal, la ultra-moderne de la Porte de Clichy à Paris, mais dans tout tribunal au monde, enfin en tous les cas dans le monde occidental, il y a cette barre où quand on vient y jurer, alors quand on est témoin, quand on est partie pile, on ne jure pas, mais cette barre m'a fait penser, bizarrement en fait, c'est des analogies comme ça, quand on écrit, on a des intuitions bizarroïdes qui ne sont pas vérifiables, qui sont ni vraies ni fausses, mais ça m'a fait penser au plan des villes antiques. Vous savez, c'est Freud qui dit que l'inconscient, si on le cartographiait, ça ressemblerait en gros au plan de Rome. Dans les villes antiques, comme vous le savez, tout est bâti par les architectes selon des fonctions utilitaires. Vous avez des hôpitaux, des écoles, des lieux pour entreposer la nourriture ou pour la produire, des lieux pour se loger. Mais il se trouve que dans les villes antiques, on accordait une importance première à un lieu sans utilité a priori, donc un lieu sacré, un lieu séparé, qu'on appelait le mundum. Le mundum, c'était un trou au milieu de la ville, d'où on avait décrété que les vivants et les morts se rencontraient là. Alors, après, c'est devenu des temples, tout ça, des églises. Le mundum, ça m'a frappé au bout de quelques semaines, à force d'entendre des témoignages, je me disais, mais ça y est, c'est là. Quand Zary Siboni parlait du fait qu'elle descendait dans l'hypercachère à la demande d'Amidi Coulibaly, qu'elle descendait parce que Coulibaly voulait savoir s'il y avait des gens qui s'étaient cachés en bas, évidemment qu'il y en avait, mais elle remontait en disant non, il n'y a personne, alors qu'ils étaient dans les chambres frigorifiques. Quand elle ne cessait donc d'en parler, elle disait « ceux d'en bas, ceux d'en haut ». C'était Perséphone, en fait. Elle allait chez Hadès, puis elle remontait à la lumière. Enfin, c'était extraordinaire de voir que finalement, enfin, je comprenais en l'entendant, à la manière de s'exprimer, comment elle avait été protégée par elle-même, tout en étant sans cesse aux prises avec un assassin dont je pense qu'il était vraiment, clairement démoniaque, parce que tous les témoignages convergent sur ses yeux révulsés, sur quelque chose, il était sous une emprise. C'est le crime incarné à Amidi Coulibaly. Et donc elle, qui était à quelques centimètres de lui, qui était la femme qui a le plus parlé à Coulibaly, lui demandait de faire des choses pour lui. Et de temps en temps, il se réveillait de sa somnambulie criminelle, et il lui disait « t'es pas encore morte, toi ?» C'était effrayant ce qu'elle nous disait. Et je me disais... voilà, il y a quelque chose qui relève dans son itinéraire à elle, ou de sa position dans cet espace qu'elle décrivait pendant 4 heures, d'une autre position qui est dans l'esprit, en fait. Elle était celle qui, si je me permettais d'employer des mots comme ça, chrétien, catholique, je parlerais de la grâce, il y avait quelque chose en elle qui a empêché le crime d'agir sur elle. Il lui a tiré dessus, il l'a manqué. Quand même, un homme qui a tué, c'était le seul armé, il a tué qui il voulait. Il lui a tiré dessus, elle n'est pas morte. Il y a parfois des choses mystérieuses comme ça, des gens, je parlais de faiblesse, sa faiblesse à cette femme-là faisait que, je veux dire, elle était désarmée, faisait qu'elle, la mort n'a rien pu faire contre elle. Elle a été celle qui a vaincu Coulibaly, il faut bien le dire. Et voilà, quand elle est venue parler dans ce lieu-là, à la barre, j'ai vraiment pensé ça, que c'était le mundus, le monde, enfin le nombril du monde, celui où les morts et les vivants parlent Le lieu de l'impossible, voilà, on dirait ça, l'impossible.
Notre solitude de Yannick Hennel est paru aux éditions Les Échappées.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.